Et j'aimerais méditer un petit peu avec vous, un peu sur cette notion du temps, le thème que vous avez choisi, ou en tout cas que l'équipe, avec l'équipe, on a un peu discerné pour ce pèlerinage des pères de famille, c'est le temps, une bénédiction, quelle réponse chrétienne à la pression du temps qui passe. Donc je ne prétends pas en trois quarts d'heure, une heure épuiser le sujet, vous imaginez bien. Mais peut-être vous donner quelques pistes de réflexion, en plus de celles que vous avez dans vos livrets. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil aux textes, qui sont vraiment des textes de qualité. On remercie Christophe qui s'est particulièrement penché là-dessus pour nous trouver une alimentation aussi spirituelle, intellectuelle, pour méditer sur cette question du temps. Et donc je vous y renvoie avec les différentes parties, en fonction aussi des étapes du pèlerinage. Et juste pour commencer, peut-être une petite introduction, de se dire qu'il y a en fait plusieurs manières de voir le temps. Il y a premièrement un temps qu'on pourrait dire circulaire ou un temps linéaire. Par exemple, que vous viviez dans une civilisation qui est pétrie par la résurrection ou que vous viviez dans une civilisation qui est pétrie par la réincarnation, vous n'avez pas du tout la même vision du temps. Je ne sais pas si les uns ou les autres ont travaillé en Inde ou travaillé avec des personnes qui habitent en Inde. Comme il y a toujours une deuxième vie, voire une troisième ou une quatrième, donc le rapport au temps, n'est pas du tout le même, parce que, justement, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours une autre possibilité. Alors que nous, le dire qu'il y a une résurrection, et que donc c'est un temps linéaire, et donc c'est un temps qui a eu un commencement et Dieu dit, donc il y a eu un commencement, mais c'est un temps aussi qu'il y aura une fin, eh bien, d'une certaine manière, donne une urgence. Parce que nous avons que cette vie pour vivre de foi. Donc il y a cette urgence-là. On ne peut pas dire que dans une autre vie, je ferai ceci. On ne peut pas procrastiner, comme on dit, à l'infini, parce qu'il n'y a que cette vie pour vivre de foi. Donc c'est intéressant d'abord de se dire que notre foi éclaire le temps. Évidemment, rien que le fait de dire qu'on est en 2014, c'est déjà une référence objective au Christ. Et vous savez bien que le fait de nous-mêmes de nous situer dans le temps, et bien de voir que le Christ lui-même vient éclairer le temps, éclairer la totalité du temps. Et donc, la manière dont nous avons de voir le temps est si imprégnée par notre foi et imprégnée par notre union au Seigneur. Ça, c'est une première, donc, petite introduction. Ensuite, le fait de dire qu'il y a aussi une autre manière de distinguer le temps, c'est entre chronos et kairos. Chronos et kairos qui sont deux termes, chronos, donc deux dieux grecs, de la mythologie grecque. Mais c'est intéressant de dire que chronos, ben voilà, chronos, c'est le chronomètre, etc. Donc, c'est le temps qui passe. Mais kairos, c'est quelque chose, c'est comme l'irruption du divin dans ce temps qui passe. Donc chronos et kairos, alors déjà du temps des Grecs, mais pour nous aussi, nous croyons que le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu se révèle et vient à notre rencontre. Donc c'est pas simplement un temps qui est, il y aurait l'éternité et puis nous qui sommes dans le temps, et puis bon, au moment de notre mort, on fait le passage. Il y a une irruption dans notre temps de l'action du Seigneur. Et de ce point de vue-là, j'aimerais vous lire un passage d'une interview que le pape François a accordée aux différentes revues jésuites au plan international. Et il a dit la chose suivante. Dieu se manifeste dans une révélation historique dans le temps. Le temps initie les processus. L'espace les cristallise. Le temps se trouve... Dieu se trouve dans le temps, dans les processus en cours. Nous devons engager des processus parfois longs, plutôt qu'occuper des espaces de pouvoir. Dieu se manifeste dans le temps et il est présent dans les processus de l'histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des dynamiques nouvelles. Cela requiert patience et attente. Je trouve ça beau de se dire que le Saint-Père nous dit, voilà, le temps est une prémesse, alors que l'espace, au contraire, et le lieu du pouvoir cristallise les pouvoirs. On voit bien avec les problèmes de frontières, on voit bien avec, voilà, ou même dans l'Église, entre le fait d'avoir quadrillé le territoire et donc du coup qu'il n'y a pas toujours eu des paroisses dans l'Église, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement. Mais de se dire que Dieu est présent, alors l'espace nous est nécessaire, mais quelque part, le temps initie les processus. Le temps est une promesse. Parce que précisément, c'est le Dieu qui vient s'installer dans le temps. Et peut-être, pour nous, ça nous paraît une évidence, mais le fait de l'incarnation, qu'un Dieu vienne habiter notre condition humaine, ça change complètement la donne. La donne par rapport à ce temps-là, parce que il est venu, comme disent les pères de l'Église avec beaucoup d'emphase, l'éternité a venu habiter le temps, l'infini est venu habiter le fini. Et c'est pour nous intéressant de se dire que notre manière de considérer le temps, c'est non seulement le chronos, mais c'est aussi le kairos au plan chrétien, de dire quelles sont les irruptions du sacré dans notre temps personnel. Et ça peut être aussi intéressant dans notre pèlerinage que nous puissions nous faire mémoire des moments où nous avons eu une expérience de Dieu, des moments qui ont été clés dans notre histoire d'homme, où le Seigneur lui-même est venu à notre rencontre. Alors ça se traduit par des rencontres, la plupart du temps, des rencontres humaines, des événements, le fait évidemment de fonder sa propre famille, la naissance des enfants, voilà, mais il y a peut-être eu d'autres événements, un temps spirituel, etc., qui fait que il y a eu une éruption, et donc c'est intéressant. Pour nous, c'est pas simplement, comme chrétien, un temps qui passe, c'est pas le chronomètre, c'est aussi un temps de la rencontre. Et parce que c'est le temps de la rencontre, c'est le temps de la prière. Et de ce fait-là, c'est intéressant de voir que dans la prière comme dans le temps, eh bien, j'accueille cette rencontre de Dieu, mais je l'accueille dans une gratitude et dans une confiance. Et donc on voit bien que notre vie, elle est un peu en tension. Hein, on parle de l'angoisse du temps, la pression du temps qui passe. Voilà, c'est vrai que le chrétien vit une tension. De toute façon, il vit une tension parce que il n'a que cette vie. Hein, et donc du coup, c'est on apprend souvent, on voit beaucoup de spirituels, par exemple, qui invitent à ne pas gâcher le temps, ne pas perdre le temps, ne pas perdre son temps. Non pas parce que le temps c'est de l'argent, ça c'est une vision plus matérialiste, mais parce que le temps, c'est le temps qui prépare l'éternité. Et donc il y a eu un commencement, mais il y aura aussi une fin à notre temps. Et la fin de notre monde, pour nous, c'est la mort. On reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est intéressant de dire que pour le chrétien, le temps n'est pas une menace. Parce que les Grecs voyaient un peu le temps comme une menace, parce qu'ils disent, le temps, qu'est-ce qu'on regarde? Ben voilà, par rapport à le temps où cette église a été construite, forcément, il y a eu des dégradations, le temps, c'est la vieillesse, le temps, c'est ce qui fait la morsure des bronzes, qui fait, voilà, qui, rien ne résiste quelque part au temps, et donc pour certains Grecs qui ne croyaient pas à un au-delà, en tout cas comme nous y croyons, eh bien, il y avait cette idée de menace du temps. Alors que le chrétien, il vit cette même pression, le fait que c'est vrai qu'inexorablement, progressivement, nous nous approchons de notre mort, mais la manière dont je vois la mort dit aussi la manière dont je vois la vie, et donc dont je vois le temps, évidemment. Donc du coup, pour nous, c'est le temps de la rencontre. La mort n'est pas la fin, c'est aussi un achèvement. C'est ce que dit le Saint-Père, c'est le temps commence les processus, initie les processus. Et ce processus-là va se terminer dans la vie éternelle. Et le fait de voir la vie éternelle, c'est sûr, le fait d'être croyant ou le fait de ne pas l'être, ça change radicalement nos existences. Parce que ça change le rapport au temps et donc aussi quelque part le rapport à la fragilité. Parce que le temps qui passe, c'est sûr, voit nos corps en tout cas s'affaiblir, voit nos... etc. Et voir les amis chers partir, donc quel est le rapport que j'ai face à la fragilité? Est-ce que c'est un rapport comme une menace, ou est-ce qu'au contraire c'est une fragilité qui est au contraire un lieu qui initie un processus, Et c'est toujours à retravailler, ça. J'aime bien ce que dit Jean Vanier, souvent il en parle, le fondateur de l'Arche, tout proche. Il dit, ben, il y a deux temps bénis dans l'existence humaine. Il y a la petite enfance et il y a le grand âge. Parce que c'est les temps, quelque part, où on n'est pas, quand on est dans l'âge adulte comme nous sommes, ben voilà, on est aux commandes du navire, etc., et c'est bien, mais c'est quelque part là où on se laisse faire. Et de voir qu'il y a des temps bénis, parce que c'est des temps aussi de la fragilité et d'une remise de soi-même dans les mains des autres. Et en tout cas, pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant de méditer. Le chrétien, donc, voit ce temps qui est venu, Dieu est venu habiter, et on voit, par exemple, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs choses qui ont affaire, qui renvoient à ça. Je vous renvoie par exemple à l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, Galates 4, 4. Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi et de conférer l'adoption filiale. Donc ça, la première chose, c'est de dire la plénitude des temps. Le Christ, c'est celui qui vient tout accomplir. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et donc, si on se met en lien avec lui, il y a un accomplissement dans notre vie qui se fait. Et je veux dire, on va d'accomplissement en accomplissement. C'est comme dit le Saint-Père, c'est tout un processus où le Seigneur lui-même marche avec nous et vient accomplir comme il a accompli. Donc, c'est la plénitude des temps. Voilà, c'est celui qui vient donner au temps toute leur profondeur et en même temps leur beauté. Et aussi notre vie spirituelle, on peut se poser la question, où est-ce qu'on en est de notre vie spirituelle et des temps spirituels qu'on se donne? Parce que si parfois on se sent une certaine tristesse, en vague à l'âme ou découragement qui peuvent nous guetter, et j'allais dire c'est assez naturel, mais comme il est important aussi qu'on puisse nous-mêmes se dire, est-ce que quel est notre lien? Est-ce que ce n'est pas notre lien avec le Seigneur, ce cœur à cœur avec le Seigneur qui au fond est un peu brinque-ballant ou en tout cas mis en sourdine? Et le temps d'un pèlerinage, c'est un temps au contraire pour mettre en grande lumière ce cœur à cœur avec Dieu. Voilà, parce que justement, je vois plus trop le sens. Je vois plus trop le sens de ma vie, je vois plus trop le sens des choses, le sens des épreuves, parce que celui qui donne le sens, celui qui est la plénitude des temps, c'est le Christ, et je m'en suis un peu éloigné, ou en tout cas je l'ai mis en deuxième place, voilà. Et donc du coup, observons aussi à l'intérieur de nous-mêmes nos sentiments, pour dire si on rentre dans une forme de tristesse, de découragement, qui peuvent être des étapes, mais en tout cas que ce soit pas ça qui prédomine, parce que ça veut dire qu'on est loin de celui qui vient accomplir toute chose en nous. Et donc il y a un acte de foi aussi par rapport à ça, à faire par rapport à ça. Mais aussi le Seigneur invite, on voit ça en Matthieu 16, 1 et suivant, il invite à discerner les signes des temps. Ça, c'est encore autre chose. Matthieu 16, 1 et suivant. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter. Vous vous rappelez ce passage peut-être où Jésus parle aux pharisiens, aux sadducéens, qui demandent, bien voilà, un signe. Et il dit, ben vous savez quand il fait des nuages, etc., que la pluie va venir. Vous savez quand le vent souffle de telle direction qu'au contraire le beau temps va se lever. Et puis il leur dit, ainsi le visage du ciel, vous savez l'interpréter. Et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. C'est-à-dire que vous savez interpréter un peu le ciel avec la météo, etc., ou des personnes surtout qui vivaient plus en lien avec la nature à cette époque-là. Mais vous ne savez pas interpréter et discerner justement cette irruption du sacré dans votre vie. Le temps du Christ, en tout cas ce qu'il dit aux pharisiens et aux sadducéens, c'est le temps de la rencontre. C'est ce temps-là. Et Jérusalem, ben voilà, tu n'as pas reconnu le temps de la visite. Et je pense aussi pour nous, C'est intéressant de se poser la question, justement, de ces temps de la visite, ce kairos dont on parlait tout à l'heure. En quoi il a été pour nous déterminant, et comment est-ce qu'on fait aussi une relecture de nos vies? Moi, je crois que c'est très important, la relecture. J'ai un petit mot là-dessus, parce que la relecture qui nous est venue par la tradition ignatienne, donc initiée par Saint Ignace de Loyola, c'est consiste justement à regarder le passé, mais pas le regarder comme une certaine nostalgie ou un regret, mais regarder le passé pour voir où il y a eu la visite du Seigneur. Et donc, ce temps de pèlerinage, je trouve ça bien, parce que ça nous permet, justement, de relire. Pourquoi ? Parce que le monde, au contraire, ne se fait pas de pause, ne vous invitera pas à faire de pause. Et vous avez peut-être, c'était un combat pour venir ici, on sait bien, pour prier, c'est parfois aussi un combat. Et on voit bien qu'on enchaîne les choses. Et on ne prend pas le temps de relire, de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu ? De même, à l'issue de ce pèlerinage, c'est bien que vous preniez un temps de relecture. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ce pèlerinage? Qu'est-ce qui m'a marqué? En quoi ça m'a construit? Je vois que, tant au niveau spirituel, mais aussi au niveau, j'allais dire, quotidien, on enchaîne les choses sans prendre le temps de la relecture, justement sans voir où il y a eu cette irruption du Seigneur dans notre vie, hein, les signes des temps. Il y a des signes qui nous sont donnés. Ça, nous croyons. Pourquoi nous croyons à ça? Parce que nous croyons en un Dieu qui agit dans l'histoire. Et donc, on n'est pas sans trace du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans notre vie, complètement à galérer, sans aucun signe. Hein? Alors, il y en a qui voient des signes partout. Alors, c'est vrai que dès par exemple, on ne veut pas mettre quelque chose sur sa déclaration d'impôt, on voit beaucoup de signes, ça c'est sûr, mais je ne suis pas sûr que l'inspecteur des impôts ait une foi aussi grande que nous. Hein, mais il y en a qui sont aussi, voient des signes un peu, voilà, de tradition, une vision un peu charismatique, tout est signe, etc. Mais c'est un signe. Bon, ça demande un discernement. Qu'est-ce qui est un signe? Et du lien avec le temps, on passe au discernement. Parce que s'il y a une irruption du sacré dans mon histoire, ben comment je la discerne, comment je la reconnais? Ce qui pourrait faire peut-être l'objet d'un autre pèlerinage, justement, c'est la question du discernement, mais comment je la reconnais, quoi? Mais il y a, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Dieu agit dans notre histoire collective comme humanité, et dans notre histoire personnelle comme homme de foi. Il agit dans notre histoire. Comme pour Jésus, voilà. Vous savez reconnaître le visage du ciel, vous savez l'interpréter, mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Et il continue, génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe ne lui sera donné que celui de Jonas. Voilà, vous réclamez un signe, mais en fait, le signe est devant vous, et vous ne savez pas le voir. Et Jonas, qui a été 3 jours dans le ventre de la baleine, etc., qui fait allusion, évidemment, aux 3 jours au tombeau, etc. Donc c'est, en fait, le signe qui vous sera donné, il faut aussi le découvrir. Il faut il faudra le chercher. Hein, et c'est l'attitude de foi qui nous permet justement de découvrir et de chercher ces signes qui viennent de Dieu. Et puis, un autre point dans le Nouveau Testament et particulièrement dans l'Évangile qu'on découvre, c'est l'initiation de la prédication du Christ. Hein, les temps sont accomplis, sont marqués. Vous trouvez ça en plusieurs endroits, mais vous trouvez ça en Marc 1, 15. Hein, Marc 1, 15. Après que Jean eut été livré, Jean-Baptiste, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Donc depuis que le Christ est venu, il y a quelque chose qui a changé dans notre histoire humaine et dans notre histoire de toute l'humanité, parce que autant les autres religions disaient voilà, je veux construire un pont pour aller de la terre vers le ciel, mais un homme a fait irruption et a dit le pont c'est moi. Alors est-ce que tu reconnais ce temps de la visite ou est-ce que tu le reconnais pas? Et comme du temps de Jésus, mais si j'avais vécu du temps de Jésus, ce serait plus facile. Pas du tout. La preuve, on voit bien comment ça s'est terminé, ça a été compliqué, le rejet. Non, parce que ça demande toujours la foi, au fond. Ça demande toujours la foi pour découvrir justement que l'irruption de Dieu dans notre temps. Hein, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel, qui nous est spontané. Le sapin disait aussi, c'est le temps de la patience et le temps de l'attente. Et je rajouterais, c'est le temps de la confiance. Voir le temps comme un allié, comme nous le croyons aussi, et non pas comme une menace, comme une bénédiction, c'est le temps de la patience. C'est-à-dire que on le voit bien que dans nos vies, on a de la difficulté à attendre. C'est d'autant plus vrai que, quelque part, les technologies nouvelles ont condensé le temps. Maintenant, tout est beaucoup plus condensé. C'est-à-dire que vous pouvez... on est vraiment dans l'immédiateté. Hein, il faut prendre conscience aussi que comment notre vie humaine influe sur notre spiritualité. Il y a une condensation du temps. On peut avoir des réponses immédiatement à un point ou à un autre de la planète, etc. Par les téléphones portables, on peut être joignable, sauf ici, où ça capte pas, et c'est peut-être une providence pour certains. Voilà, c'est un lieu où voilà, on n'est pas dans cette immédiateté. Et donc du coup, je trouve ça c'est intéressant de se dire que nous-mêmes, ça nous demande peut-être un combat spirituel plus important pour nous déconnecter, laisser le temps de la patience aussi parce que aujourd'hui, j'ai pas une réponse au mail en deux jours, tant que je relance immédiatement, c'est juste pas admissible. Bon, et puis du coup, j'envoie les SMS, et puis bon, voilà, quelque part, où est le temps de la patience? Or, au fond, de dire qu'il a fallu des milliers, des centaines de milliers d'années d'histoire de l'humanité pour que le Christ vienne à notre rencontre. Pourquoi ce temps de préparation, au fond? Parce que pourquoi Jésus n'est pas venu avant? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Pourquoi? Tout simplement, il y a un temps de maturation de l'humanité. Et donc, par rapport à nos vies, je pense d'abord être patient avec soi-même, ce qui n'est pas une mince affaire. On aimerait appuyer sur le bouton et changer tel aspect de notre caractère ou tel aspect de notre manière de procéder, mais aussi être patient avec les autres, parce que le Seigneur lui-même prend ce temps comme un temps de patience envers nous. Hein, il est patient. Il attend. C'est le temps de l'attente, dit le Saint-Père. Hein. Cela requiert patience et attente. Alors, je trouve ça beau aussi que on puisse un peu intérioriser et descendre en nous-mêmes. Et où est-ce qu'on en est de cette capacité de nous extraire de ce flot continu d'informations, de ce flot continu de ce stress qu'on parle, la pression du temps qui passe? C'est vraiment ça. Il y a une pression et qui depuis 10-15 ans, s'est largement augmentée, très largement augmentée, parce que justement, on est joignable en tout temps, en tout lieu. Et alors, nous-mêmes, où est-ce qu'on en est? Et de dire ça, de dire que non, il y a aussi un temps pour la maturité, un temps pour la maturation des choses. Et c'est le temps, qui dit le temps de la patience, c'est aussi le temps de la confiance. Parce que justement, Dieu agit dans notre histoire progressivement. Il agit dans notre histoire. Et confiance et foi, on le sait bien, c'est quelque chose qui est tellement lié, hein, au plan étymologique, mais dans le vécu quotidien. Et donc, nos impatiences, bien souvent, sont des manques de confiance face aux autres et face à Dieu, et peut-être face à nous-mêmes aussi. C'est que on a ce désir de tout maîtriser, de tout calculer, de tout... Et on voit bien toutes les mentalités, il y a une mentalité sécuritaire qui le risque zéro, la multiplication de normes, tout ça, ça va dans le même sens quelque part. C'est justement, c'est comme une pression, c'est que rien ne nous échappe. Où est la confiance si rien nous échappe? Et s'il n'y a pas la confiance, où est la patience? Vous voyez, c'est, je crois qu'il faut aussi prendre du recul, et vous êtes là pour ça, par rapport à nos existences, parce que sinon, il y a comme un rouleau compresseur qui s'abat sur nous. Vraiment, c'est un rouleau compresseur. Si on ne prend pas du temps pour la prière, du temps pour la relecture, pour l'accompagnement spirituel, de revoir justement avec l'aide de quelqu'un, de revoir où est-ce que le Seigneur agit, si on ne prend pas le temps de ça, eh bien, on est victime de ce rouleau compresseur. Et on n'est plus dans la confiance ni dans la patience. Au fond, on n'est plus dans cette écoute attentive de la présence de Dieu dans ma vie. Et tous, nous comme religieux, ne croyez pas, ben vous, dans votre monastère, vous devez être complètement... Oh là là! Je ne vais pas vous dire toute la vérité, parce que sinon... Vous seriez un peu surpris, mais en tout cas, c'est clair que nous, comme vous, il faut se faire violence. C'est pour ça que on a 3 fois par jour, on a les offices, c'est pour rappeler l'irruption du sacré dans nos vies. Mais il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour être à l'heure, d'abord, hein, et on entend la cloche, pac, on arrête, ça c'est une violence. Parce que, justement, pourtant, c'est le temps. On a fait profession de ça, comme religieux. On n'a que ça à faire, quelque part. Mais non, mais on trouve d'autres choses à faire. Ça, vous en inquiétez pas, on n'est pas sans occupation. Mais vous voyez, je vois qu'il y a un combat spirituel à l'intérieur de nous-mêmes. Que ce soit pour mettre en place la prière, que ce soit pour mettre en place le temps de la relecture, etc. Il y a un combat intérieur. D'où l'importance de dire comment est-ce que dans mon agenda il y a l'irruption du sacré, parce que c'est aussi une manière de voir le kairos. Ça doit être inscrit dans mon agenda. Alors, il y a des kairos qui sont en dehors de l'agenda parce que des rencontres que j'ai pas prévues, des événements que j'ai pas prévus, etc. Ok, mais comment est-ce que dans mon agenda je laisse la place au Seigneur pour intervenir? Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Ça, c'est quelque chose dont chacun peut faire l'expérience. Et donc, posons-nous la question, dans nos agendas, où est-ce que je prends ce temps de recul? J'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup touché, justement, d'une personne qui est le patron d'Essilor, et du coup, et qui vraiment, je trouvais très beau, parce que juste, il disait, ben voilà, j'ai commencé, il a découvert l'oraison. L'oraison, c'est cette prière silencieuse, et accompagnée par un père carme, etc. Et il a commencé la prière d'oraison, et il dit, avant d'aller à mon travail, je passais devant une église, et à un moment donné, je me dis, je vais m'arrêter, si elle est ouverte, ça c'est aussi un petit détail pratique, mais je vais m'arrêter, je vais prier. Et du coup, il a mis en place, comme ça, c'était dans son agenda, un temps pour la prière. Et il a dit le bienfait que ça lui a fait pour l'unification de sa personne, mais aussi son rôle de manager, son rôle de responsable, parce que du coup on confie aussi dans le Seigneur les personnes dont on est responsable. Parfois on passe en revue les questions professionnelles, mais aussi des questions familiales, sa propre famille, etc. On n'est pas dans cette immédiateté, dans cette urgence, dans cette qui va faire que... Parce que tôt ou tard, si on ne se donne pas le temps de la prière, eh bien, il y a une manière d'envisager les choses et les personnes qui est justement, qui doivent répondre au doigt et à l'œil, qui est dans l'immédiateté. Je suis plus patient. Donc, va demander cette grâce au Seigneur, en tout cas dans ce pèlerinage. Je vous disais qu'il y a aussi dans notre manière de vivre la foi chrétienne, un enjeu dans notre temps. C'est un autre point, un enjeu. Parce que dans le temps, je prépare l'éternité. Et donc, du coup, forcément, ce que je vis dans le temps, retentit dans l'éternité. Ça, c'est encore un autre aspect du temps pour le chrétien. C'est-à-dire qu'il prépare son éternité dans ce temps. Hein, comme disait la petite Thérèse, je n'ai qu'une vie pour vivre de foi. D'espérance, j'aurai la vie éternelle pour vivre de charité. Alors, avec cette vie ici aussi, mais de foi et d'espérance, je n'ai qu'une vie. Et donc, j'aimais bien, je pense que ça a été mis dans vos livrets, la parabole des talents, par exemple. C'est intéressant que de voir que le maître, vous, on la connaît bien tous, donne les talents, et il est dit, à un moment donné, après un long temps, le maître revient pour demander des comptes. Quelque part, les talents qui nous sont donnés nous permettent de laisser, dans le temps, on les fait fructifier. Mais ce temps-là, on aura à rendre des comptes. On aura, d'une manière ou d'une autre, à ne pas le gâcher. Et on voit bien dans celui qui a eu qu'un talent, etc., ben, j'ai eu peur, je l'ai enterré, etc. Bon, parce que je sais que tu es un homme dur et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Voilà, on voit bien que le temps, alors un long temps, c'est-à-dire que dans la parabole, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu un long temps, et du coup, ce temps-là, c'est le temps aussi où je fais féconder, fructifier les dons de Dieu, les talents. Donc il y a une densité, hein, savoir où mettre les priorités, ça fait partie d'un de vos têtes de chapitre pour la méditation, savoir où est la priorité, savoir, et ça se fait justement dans une dimension de, je veux dire, souvent je prie avec mon agenda, vous me direz, c'est un peu curieux comme manière de prier, mais je regarde mon agenda et je me dis, tiens, est-ce que je laisse des temps pour les contretemps? Est-ce que je laisse des respirations? Et où est-ce que tout est en touche-touche? Et donc forcément, il y a un grain de sable dans la machine, il va y avoir une tension intérieure, parce que voilà, je sais que quelqu'un m'attend, parce que je sais, bon, voilà. Est-ce que, vous voyez, il y a des gens qui veulent vivre dans 24 heures plus que 24 heures. Ben ça, d'une manière ou d'une autre, ça retentit dans leur relation avec les autres. Et donc, de se poser, comment est-ce que moi-même je vis de façon concrète les contretemps dans mon existence? Ce que je n'ai pas choisi. Contretemps, c'est par définition ce que je n'ai pas choisi, et encore moins ce que je n'ai pas, prévu. Alors, je sais que dans la vie professionnelle, vous n'avez pas toujours le choix, mais on a plus le choix qu'on ne le croit. On a ce choix aussi de pouvoir dire non, on a ce... qui se positionne aussi les autres. Mais ça demande, souvent parce qu'on n'a pas pris le temps du recul, du coup, on est dans une sorte de flot, dans une suractivité, dans un activisme, qui fait qu'on dit, maintenant on ne peut pas dire non, je suis indispensable, mais si je dis non, mais le client va partir. On est dans une sorte d'angoisse, de pression. Et ça, c'est pas sain. Ça, clairement, c'est pas sain. Parce que ça ne nous aide pas à nous unifier. Et dans le rapport aux autres ensuite, on rentre aussi sur une forme de pression. Alors c'est à celui qui cassera d'abord la logique. Parce que tout ça, c'est des logiques. Hein, c'est des effets de domino. Et donc, est-ce que aussi dans ma vie, je n'ai pas à dire stop à ce genre de manière de vivre? Parce que je sens que les vraies priorités qui sont dans mon couple, ma famille, ma vie spirituelle, ou peut-être les relations avec les salariés, ou les collègues, etc. Bon, je sens que ça empathie. Parce que je suis dans un activisme. Mais quand on est dans un activisme, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on se dit, il faut faire le maximum. Et donc du coup, on est quelque part dans une auto-justification, parce que en plus, toute la société va dans ce sens-là. Donc c'est un enjeu, donc c'est de se remettre par rapport à notre à la vie éternelle. Comme je vous le disais, le fait d'être croyant nous donne une manière de vivre le temps très différente des personnes non croyantes. Hein, et de se dire, voilà, comment est-ce que je prépare aussi cette vie éternelle et comment est-ce que je la... encore une fois, ça nos actes retentissent dans l'éternité. C'est quand même énorme qu'on pense. Bon, vous voyez, par exemple, le jugement dernier. Le jugement dernier n'a pas de très bonne presse ces temps-ci. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y aura un jugement particulier au moment de notre mort, mais il y aura aussi un jugement dernier à la fin des temps. Mais je trouve au contraire que le jugement dernier, c'est un signe d'espérance formidable. Parce que c'est le signe que nos actes ont une portée bien au-delà du visible. C'est le signe d'une dignité et d'un respect de nos libertés. Qu'as-tu fait de cette vie qui t'a été donnée. Et le fait de devoir répondre, je trouve sa réponse, c'est le signe d'une responsabilité. On a une responsabilité par rapport à ça. Soyons pas victimes par rapport au temps, ou par rapport à notre agenda, où on subit sa vie, où on est une sorte de victime, où on vit par procuration, par les décisions des autres, au fond, ben voilà, je me cale dans mon agenda, et puis, ben voilà, et puis finalement, ben, tout passe, et puis... c'est pas ça. C'est une manière de se justifier, de rationaliser, de se donner des raisons d'agir comme on agit. Mais au contraire, de prendre conscience que j'ai une responsabilité, j'ai une... c'est énorme que les actes que je pose dans mon existence d'homme, eh bien, ont dans l'au-delà une répercussion. Moi, je trouve que ça donne à notre vie humaine mais une densité mais extraordinaire. Et c'est là où on voit bien la différence entre la réincarnation et la résurrection. Un autre temps, une autre méditation, le temps de Dieu, c'est l'aujourd'hui. Le temps de Dieu, j'aime bien cette... ça a été aussi l'objet d'un chant, etc. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui, dit la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Au fond, vivre le temps, c'est vivre une certaine présence. Le temps à la manière de Dieu, c'est vivre une certaine présence. Il est présent à notre humanité, on l'a dit, il est présent à notre vie quotidienne. Mais où est-ce qu'on en est de se vivre l'instant présent? Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Et quand je prépare des fiancés au mariage, j'aime bien leur dire, parce que certains se posent la question, mais est-ce que dans 10 ans, on sera encore ensemble, dans 20 ans, dans 30 ans? 10 ans, 20 ans, 30 ans n'existent pas. Et on voit bien le tentateur, le démon, qui parfois nous tend des pièges, qui veut justement condenser le temps et nous faire rentrer dans une angoisse. Oui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça n'existe, c'est une illusion. Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Et donc, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si j'ai vécu comme chaque jour comme un aujourd'hui, eh bien, j'y serai encore. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour consolider ta vie de couple, ta vie de famille? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ou ta vie religieuse, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place? Je pense que c'est, en tout cas, accepter justement de vivre dans le présent parce qu'on y découvre une présence. Parce qu'on y découvre une présence. En dernier lieu, une petite méditation sur la mort. Parce que, évidemment... dans ce sens, le temps est une pression, aussi une angoisse. En chacun de nous, de façon plus ou moins consciente, selon l'âge que nous avons, etc., ou l'expérience de deuil que nous avons proche de nous, la question de la mort se pose différemment. Mais la question de la mort, au fond, souligne aussi notre rapport au temps. Parce qu'on sait que pour nous, il y aura une fin. Ça, c'est tout à fait certain pour chacun. Alors, c'est vrai que ça peut générer une certaine angoisse de ce fait-là, de dire... mais il y a une autre... le temps est une bénédiction dans le sens où je vis dans l'espérance. Je ne vis pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je ne vis pas comme ceux qui ont l'angoisse du vide après. Je vis dans l'espérance des promesses de Dieu. Et ce pèlerinage, ça pourrait être un bon lieu pour réaviver notre espérance. Que j'espère dans ces promesses de Dieu, d'un Dieu qui nous appelle à vivre pour toujours avec lui. Et du coup, la mort, si elle reste une rupture en moi, entre l'âme et le corps et avec ceux qui m'entourent, mais elle ne reste pas un vide. C'est pour nous le temps de la rencontre, la mort. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de voir, face à cette sécularisation de l'homme moderne, en tout cas occidental, l'absence de Dieu, on remet Dieu uniquement, voilà, dans le uniquement dans le domaine privé. Tu peux être Dieu, mais dans le domaine privé, surtout que ça soit pas sur la place publique. Alors, ça tombe mal parce que ce matin on a prié sur la place publique. Mais bon, alors non, mais on dit non. Je suis une unité, donc quand je suis public ou privé, je suis une unité. Bon, dans le respect des lois, mais et donc on voit bien cette société qui est de plus en plus sécularisée, qui éloigne Dieu. C'est une société qui progressivement met la mort de côté. N'invite pas à méditer, à la fois la banalise, hein, on voit avec les questions d'euthanasie, mais à la fois la met de côté, parce que voilà, c'est parce que c'est juste rien. Vous voyez, dans des pays, moi, l'expérience que j'ai eue en Argentine pendant une dizaine d'années, il y a des lieux où on veille les morts. Et je trouve peut-être que ça a été le cas dans vos familles, quand il y a eu un décès, etc. Le fait d'avoir, quand c'est possible, un temps pour être auprès de l'autre. Parce que justement, le chrétien voit la mort, non pas comme une fin, mais comme un début. Parce qu'il y a cette espérance chrétienne. Mais le fait que notre civilisation ne soit plus irriguée par l'espérance chrétienne nous a fait reculer en humanité de ce point de vue-là. Parce que la question de la mort, comme la question de la fragilité, comme la, voilà, on la voit comme ou une banalité, ou alors voilà, c'est pas un sujet, quoi. Alors voilà un peu ce que je voulais vous partager pour vous relancer dans votre... dynamique, à la fois la question de ce temps d'aujourd'hui, la question de la mort, la question des talents et de la relecture, des signes des temps, de Dieu qui vient à notre rencontre. Ben, je vous laisse avec ces quelques pistes pour que vous puissiez approfondir votre pèlerinage.